BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag. Erwan Morris.
Et bienvenue, ravi de vous retrouver ce week-end encore dans Happy Boulot. Au programme aujourd'hui, des DRH sans cesse à la recherche de nouvelles solutions pour attirer et surtout retenir les talents dans les entreprises. Que pensez-vous, tiens, d'une journée dans l'année pour recharger vos batteries, par exemple? C'est ce qu'a mis en place ESI Group. Son responsable des ressources humaines vient nous en parler. Notre sujet de la semaine, il est consacré à l'intelligence artificielle. ChatGPT a-t-il ouvert une boîte de Pandore dans les entreprises? Est-ce que les bots, les robots, peuvent œuvrer aux côtés des salariés, voire à leur place? Peut-être parfois, on posera la question à nos invités dans notre débat. Et puis, en fin d'émission, le Labo RH. Nous recevons le fondateur de Délégatio, une solution qui numérise le dialogue social à l'heure du télétravail. Voilà le programme. Merci d'être avec nous.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'entretien DRH.
Avec notre invité de la semaine dans Happy Boulot, bonjour Yannick Charron.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vice-président en charge des ressources humaines d'ESI Group, entreprise française, spécialiste des logiciels de simulation pour l'industrie. Typiquement, peut-être avant de commencer, qu'est-ce que vous allez faire? Quels sont les services que vous proposez?
Alors peut-être vous donner quelques chiffres pour vous décrire ESI. Alors c'est 130 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça c'est pour les résultats de 2022, c'est en croissance. On est 1000 salariés au niveau du groupe et on est présent dans 18 pays. Et puis je vais vous donner un quatrième chiffre, c'est 50. 50, c'est l'âge du groupe. On a 50 ans cette année, on a été fondé en 1973. Donc c'est assez remarquable, j'étais à peine né à cette époque-là, enfin presque. Et pour vous décrire un peu l'activité, on est un éditeur de logiciels. On permet à nos clients d'aller réaliser l'ensemble du cycle de prototypage de façon virtuelle. Et puis, pour faire relativement court, c'est du gain en temps, en efficacité. Il y a juste des curseurs à bouger, histoire d'aller changer les paramètres. Et c'est aussi des gains en coût, puisque ça coûte moins cher de faire ça sur un logiciel plutôt que d'aller créer des prototypes physiques. Et puis, c'est bon pour la planète, parce que ça évite d'aller jeter les prototypes une fois les cycles réalisés.
Avec donc des emplois, on est dans la tech, hein, très clairement, des emplois qualifiés, des ingénieurs, et une méthode de travail qui est en train de changer aussi. On sait que pour recruter, il faut attirer ces talents parce qu'ils sont très recherchés.
Oui, alors vous avez raison, effectivement, il faut qu'on trouve des dispositifs innovants. Il faut qu'on propose des choses à nos collaborateurs et des choses qui sont, en l'occurrence, en lien avec quelque chose qui nous tient à cœur, c'est l'équilibre. Nos populations, simplement pour le décrire en quelques mots, les populations, on a des équipes composées d'ingénieurs ou assimilés ou de profils universitaires assez élevé, et notre cœur de métier, c'est la physique des matériaux. Et puis également, nous avons aussi des équipes dans les fonctions support traditionnelles, donc la communication, le légal, le marketing, les ressources humaines, la qualité, et j'en passe.
Il y a beaucoup de métiers, le salaire, c'est important pour retenir ses talents, mais plus seulement, parce que vous aviez créé il y a 2 ans déjà une... innover en créant une journée un peu spéciale pour améliorer la qualité de vie au travail. Est-ce que peut-être vous pouvez nous rappeler
bien
ce
sûr,
que vous aviez fait?
Bien sûr. Alors, on a mis en place il y a 2 ans un No Meeting Day, donc une journée sans rendez-vous, qu'on a positionné le mercredi. Et l'objectif, c'est de donner de la place au temps long. On sait qu'on a des vies qui sont trépidantes, les vies professionnelles sont extrêmement chargées. On reçoit des messages, des mails, des rendez-vous en permanence. Et donc, il fallait qu'on instaure une journée, ou en tout cas qu'on la mette en place, au cours de laquelle les collaborateurs puissent garder ce temps non dédié aux réunions, et on a appelé ça le No Meeting Wednesday.
Est-ce que ça a pris? Quels sont les retours là, sur ces 2 années d'expérience?
Alors ça fonctionne effectivement, mais surtout on ne doit pas s'arrêter là. Et ce que nous mettons en place cette année, c'est une journée de récupération, ce qu'on a appelé un Recharge Day.
Qui consiste en quoi?
Alors, c'est comme un jour férié supplémentaire, en définitive, sur le principe. Oui. On donne une journée en plus, c'est positionné pour l'ensemble des salariés du groupe sur la même journée. On l'a mise sur le vendredi 19 mai. On n'a pas fait les choses au hasard, puisque le 19 mai, je vous ai dit tout à l'heure, qu'on était présent dans 18 pays, pour 40, plus de 40% des effectifs, eh bien ça suit un jour férié. Le jeudi 18 mai étant férié, ça nous permet d'avoir 4 jours à la suite pour 40% des effectifs, 3 jours pour le reste des collaborateurs. Et c'est un jour additionnel sur lequel personne sera connecté. On aura une tranquillité d'esprit totale.
Et donc ça, c'est un jour offert, en fait.
C'est un jour en plus. On ne vient pas prendre en sur plus. Les CP ou voilà, les RTT. C'est l'équivalent d'un jour férié qui serait donné de manière additionnelle.
Ça produit son effet, ces petites innovations, ces petits ajustements-là. Est-ce que vous avez dans les retours de vos salariés?
En tout cas, les retours exprimés sont plutôt des retours satisfaits. Je pense que le fait de donner un jour additionnel de repos, en expliquant les raisons pour lesquelles on fait ça, et de nouveau, on parlait d'équilibre, qui est un dispositif important. On le voyait tout à l'heure sur le jour sans rendez-vous. Eh bien, sur cette même journée, l'ensemble des collaborateurs sera sans activité. Donc, on ne va pas recevoir d'emails, de coups de téléphone, de rendez-vous. C'est un monde hyper connecté. On a toujours tendance à être sur nos téléphones en permanence. Ouais. Bon, ce sera, voilà.
Alors,
tranquillité d'esprit.
Yannick Charron chez SI Group, on est rentré quand même, c'est vrai, dans une espèce d'escalade d'innovation, de nouveauté. Il faut tester ces nouveaux concepts aussi pour rester attractif. Vous me voyez peut-être venir. Est-ce qu'on ne se dit pas parfois, on décale le problème si on a besoin d'un jour pour recharger ses batteries? C'est peut-être aussi qu'on a trop donné dans la semaine ou dans les mois qui précèdent. Est-ce que c'est vraiment ça pour vous la bonne solution?
Ça fait partie des solutions. Disons que ça fait partie de la culture de l'entreprise et on souhaite appuyer là-dessus et envoyer ce message très clairement à l'ensemble des collaborateurs. Alors vous avez raison, c'est pas le seul dispositif. Ça rentre dans la culture de l'entreprise, tout comme on peut mettre en place un certain nombre d'autres éléments, évidemment.
Vous allez multiplier ces journées à thème, d'une certaine manière, autour du bien-être au travail?
On a déjà dans les pratiques de l'entreprise des communications assez nombreuses et variées en fonction des pays par ailleurs qui se ciblent. Maintenant, aujourd'hui, cette communication sur le Recharge Day, je trouve que, enfin, on pense que ça envoie un message extrêmement clair sur la philosophie et la politique de l'entreprise en matière d'équilibre. Et c'est pas le seul dispositif. On s'engage notamment en faveur du positionnement des femmes dans l'entreprise. On a signé le Women Empowerment Principle des Nations Unies, c'est-à-dire qu'on garantit aussi, en plus de ces activités ou de ces actions ponctuelles qu'on peut mettre en place, un dispositif très pérenne sur des sujets de société. On s'en sent clairement responsable.
Bon. Merci beaucoup Yannick Charron. Dernière question pour faire la transition peut-être avec la suite de notre émission, puisqu'on va parler d'intelligence artificielle dans les entreprises. Vous l'utilisez déjà peut-être dans les recrutements ou...
Alors c'est encore pas sur les recrutements, par contre c'est incorporé dans nos produits et nous avons des solutions basées sur des capteurs qui permettent de prédire les conditions de maintenance et d'exploitation des produits en cours et aussi d'anticiper les besoins, les futurs développements des futurs produits de nos clients.
Et donc, c'est déjà là. Merci beaucoup, Yannick Charron, vice-président en charge des ressources humaines de SI Group. On continue donc avec notre débat sur l'intelligence artificielle.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le sujet sur la table.
Et oui, en moins de 6 mois, ChatGPT s'est imposé dans certaines entreprises. La moitié des boîtes américaines l'utilisent déjà. Et selon une récente étude de Goldman Sachs, ChatGPT pourrait entraîner des suppressions d'emplois. Jeanne Spicarolène, vous avez regardé cette étude de la Banque d'affaires américaine. Combien d'emplois seraient menacés ?
300 millions dans le monde. Les professions de bureau étant les plus touchées, les tâches administratives à 45% et les cadres et professions qualifiées à 34% en Europe, suivies par les tâches administratives et juridiques. L'étude dénote par ailleurs que 63% des emplois sont susceptibles non pas d'être remplacés, mais juste complétés par l'intelligence artificielle.
Et selon Goldman Sachs, quels avantages présente alors ChatGPT pour les salariés ?
Selon l'étude de la Banque américaine, elle pourrait augmenter leur productivité de 37%. Et puis au niveau de l'économie mondiale, Goldman Sachs prédit une hausse potentielle du PIB mondial de 7% grâce à ces technologies.
Merci Jeanne. Pour aller plus loin, j'accueille tout de suite nos invités avec nous. Arnaud Ponce, directeur général du think tank Digital New Deal, après avoir dirigé donc les agences des agences de conseil pendant une quinzaine d'années. Ludovic Jaffres à vos côtés, directeur général de Linkeo, agence web pour commerçants, artisans et TPE, spécialiste du marketing digital. Bienvenue. Et Stéphane Mallard, conférencier spécialiste des nouvelles technologies et auteur de Disruption. Stéphane, je commence avec vous. D'abord, un mot sur les chiffres qu'on vient d'exposer. Pas étonnant.
Pas étonnant, non, mais en fait, ces chiffres, ils veulent rien dire. Il y a plein d'études qui vous donnent des chiffres différents. En réalité, ils en savent rien. Ce qui s'est passé, à chaque fois qu'on a eu des révolutions technologiques, c'est qu'on a détruit des jobs, mais on en a recréé d'autres qu'on connaissait même pas avec des nouveaux paradigmes. Vous savez, c'est Schumpeter, la destruction créatrice. Ce qui se passe cette fois-ci, c'est qu'on est peut-être en train de changer de paradigme avec une création massive de valeur, ce que dit d'ailleurs Goldman Sachs, mais peut-être une destruction nette d'emplois. Ce qui compte en fait, c'est pas le nombre d'emplois que vous créez, c'est le ratio entre le nombre d'emplois que vous créez et ceux que vous détruisez. Et cette fois-ci, ça pourrait être du net. Pourquoi ? Il y a un argument, c'est de dire que contrairement à toutes les révolutions précédentes, cette fois-ci, on s'attaque à la dernière spécificité de l'homme au travail, qui est son intelligence. Si vous avez une IA qu'on appelle générale, qui est capable progressivement de tout faire, tâche par tâche, y compris les plus complexes, ce qu'on est en train de faire progressivement en ce moment, alors vous basculez la valeur sur le capital plutôt que sur le travail et vous faites disparaître le travail des humains.
Wow.
Bonne nouvelle pour le futur de l'humanité.
Ça commence fort. Arnaud Ponce, vous observez vous aussi ces phénomènes de près. Vous aussi, vous avez travaillé. Alors, vous avez travaillé dans les fonctions marketing. Oui. Et c'est vrai que c'est un métier où l'intelligence artificielle est déjà beaucoup là dans les entreprises.
Bien sûr, alors c'est effectivement un métier, mais ce sont les agences de communication en général vont être très impactées. Si on prend par exemple le métier des médias, vous savez que dans les agences de communication, il y a deux branches. Il y a ce qu'on appelle l'agence de publicité qui crée le message créatif, et puis les agences de médias qui vont faire l'achat d'espace pour placer ces messages. Eux, ils ont déjà pris une révolution il y a plusieurs années, ça s'appelle le programmatique. C'est le fait qu'il y ait une automatisation de l'achat d'espace. Il y a un matching entre l'offre et la demande qui se fait automatiquement par ce qu'on appelle le programmatique. Bon, ça, c'est resté assez conti. Là, on rentre dans le quali. C'est-à-dire qu'on remonte encore d'un niveau dans la chaîne de valeur, ce qui va évidemment poser de gros problèmes parce que c'est encore de la désintermédiation, c'est encore de la démonétisation, une paupérisation de ce métier, il faut bien le dire. Et donc, du coup, ça veut dire qu'ils vont attirer moins de talents. Mais je sais que je l'ai vécu dans ce métier avant de le quitter. Les dernières années, j'ai vraiment vu une accélération dans les agences médias où les gens qui avaient fait Sciences Po, HEC, etc., n'allaient plus dans les grandes agences, aller dans les startups ou ailleurs. Et donc, on voit une sorte de... on voit des gens très seniors, quelques-uns, qui viennent vendre la stratégie au moment clé, les appels d'offres, etc. Puis après, ils disparaissent. Puis après, vous avez du très junior qui vient commenter le programmatique, c'est-à-dire commenter les décisions d'un ordinateur. C'est un peu particulier.
Mais c'est plutôt une mauvaise nouvelle, non ? Ludovic Jaffray, cette intelligence artificielle, elle est en train de remplacer justement les juniors des entreprises. Elle est capable de faire la même chose pour moins cher ?
On l'utilise déjà au quotidien dans l'entreprise. Il faut voir que la communication digitale, c'est... beaucoup de contenu, enfin la communication digitale, c'est remonter dans les moteurs de recherche sur Google principalement, et donc pour remonter, c'est beaucoup de contenu. Donc là, effectivement, on avait des rédacteurs qui étaient productifs, et maintenant on a des rédacteurs qui sont 5 ou 10 fois plus productifs parce qu'ils utilisent ChatGPT, quoi.
Donc ils sont pas remplacés.
Ils font plus, mais tout le monde fait plus. Donc ça va être la guerre, ça va être vite un problème pour Google parce que Google, il indexe le web. Et pour remonter dans Google, il faut avoir plus de contenu que les collègues. Donc là, pour l'instant, tout le monde est en train de remplir Google avec du contenu de ChatGPT. Donc à un moment, Google va dire attention, mais j'ai un problème, je peux plus tout indexer. Donc il va y avoir un problème, je pense, assez rapidement.
Stéphane Mallard, ils sont pas remplacés, mais ils vont l'être.
Oui. Alors en fait, c'est toujours en deux temps. C'est la même chose pour les médecins. C'est-à-dire que d'abord, vous êtes complémentaire de l'intelligence artificielle.
Comment ça pour les médecins?
Ils vont être remplacés aussi.
Ah ben bien sûr, mais c'est une excellente nouvelle. Vous savez qu'ils sont pas si experts que ça, ni les médecins, ni n'importe quelle profession où il y a une expertise. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez l'algorithme qui augmente votre expertise. En gros, vous allez vérifier que l'algo valide votre diagnostic, mais très vite, vous allez voir que l'algo a toujours raison, voire raison quand vous avez tort, voire vous suggère des trucs que vous savez pas. Et là, vous faites sauter l'expertise.
C'est la suite en fait de ce débat. Mais il faut aussi une acceptation, non? Du public, parce que vous parlez des médecins, ça me fait penser aux pilotes de ligne. On sait qu'aujourd'hui, on peut, je crois, quasiment faire voler un avion.
C'est déjà le cas.
On peut le faire sans pilote. Mais derrière, les gens veulent pas monter dans l'avion.
C'est la question de la confiance.
Oui, Arnaud.
En fait, c'est la question de la confiance. On a davantage confiance quand on voit un pilote à bord d'un avion, alors qu'effectivement, tout est automatisé. Et donc, la gestion qu'on va avoir face à cette intelligence artificielle, qui va être de plus en plus générale, effectivement, c'est la question de la confiance. Donc, la confiance, ça veut dire quoi ? C'est quel est le niveau de transparence ? On a besoin... De plus en plus, nos vies vont être régies par des algorithmes. Ça veut dire qu'il va y avoir des décisions qui vont impacter nos vies. Donc, on a besoin que ces décisions, on puisse, un, les comprendre, et deux, surtout, les contester. Ça veut dire que juridiquement ou autre, si demain, il y a une IA qui décide quelque chose sur ma vie, un droit à l'emprunt, une décision sur ma vie professionnelle, etc., je dois être en capacité de la comprendre, et je dois surtout être en capacité de la contester.
Il y a une étude de l'Université de Pennsylvanie qui nous dit que 8 métiers sur 10, au minimum, vont voir leurs tâches transformées par l'intelligence artificielle. Ça veut dire que ça sera peut-être 10 sur 10 à un moment donné. Bon. Ça peut être, Ludovic Jaffray, ça peut être une bonne nouvelle parce que vous nous dites que ça accompagne aussi les métiers.
C'est sûr, mais même dans la communication digitale, les métiers, il y a une dizaine de métiers hein, pour faire de la com digitale, entre la création du site, le contenu, oui. les achats médias, il y a une, et les chefs de projet. Et ces 10 métiers, je pense qu'il y a 20 ans, il n'y en avait aucun qui existait. Hein. Mmh. Et je pense qu'effectivement, hein, les métiers qu'on, dont on aura besoin plus tard dans la communication digitale, ils n'existent pas encore. Mais là où je rejoins, c'est que clairement, il y aura des nouveaux métiers. Quoi.
Et c'est là-dessus aussi qu'il faut compter. Enfin, c'est ça, comment dire, le côté positif de cette révolution qui est en train de se jouer ou pas, Stéphane Malin?
Alors non, le côté positif, c'est que, comme je le disais au début, ça va créer massivement de la valeur dans des proportions qu'on n'a jamais connues. Mais l'autre côté
exemple.
Positif,
non mais exemple.
Bah, exemple, vous avez un algorithme qui est capable de vous targeter un nouveau marché avec des millions de clients potentiels que vous aviez pas vus parce que vous pouvez les micro-cibler, leur créer le produit parfait sur mesure, entièrement personnalisé, sans faute, etc.
Mais ça, avec la réglementation RGPD, etc.
C'est RGPD, que... c'est entre nous, c'est du bullshit. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi?
Non, mais Arnaud Ponce,
je vais vous donner l'argument.
Les lois, les États, c'est pas terrible.
C'est très important, sauf que c'est pas suffisant. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, avec un algorithme, vous pouvez empêcher d'utiliser des données. Vous pouvez dire, je refuse qu'une entreprise utilise telle donnée. Mais lorsque vous avez le bon algorithme, plus d'autres données que vous autorisez l'entreprise à utiliser, vous pouvez déduire les autres données sans les stocker. Donc déjà, vous avez fait sauter ce côté-là. Vous voyez, c'est jamais suffisant parce que toutes les données sont corrélées. Mon point, je reviens sur votre question précédente. Pourquoi c'est aussi une bonne nouvelle qu'on remplace des jobs? Parce qu'en fait, philosophiquement, l'homme travaille pour se débarrasser du travail. La productivité, c'est ça. C'est avoir plus de loisirs et moins de travail au sens contraignant. On pourra avoir des occupations, etc., qui sont plus forcément rémunérées.
Ça veut dire des emplois de plus en plus qualifiés? Et donc,
dans
moins
un premier
de travail
temps,
pour les personnes qui n'ont peut-être pas de diplôme.
Mais n'oubliez pas que ce sont les gens qualifiés aujourd'hui qui sont visés par l'intelligence artificielle, parce que c'est les gens les plus chers, hein, les avocats, les consultants très chers.
C'est la révolution,
etc.
Des cols blancs. Hein,
des cols blancs
beaucoup aujourd'hui.
Très qualifiés, voilà. Très formés et très chers. Il est plus rentable d'automatiser un avocat qui coûte très cher à l'heure que un junior dans une entreprise de com, par exemple.
Arnaud Ponce, là-dessus.
Je suis pas du tout d'accord. Sur pas grand-chose en fait depuis le début, mais c'est ça.
Non, mais ça ah, bah, c'est ça qui est bien.
J'ai pas revenir sur le RGPD et l'importance de la loi, et etc. Non, mais je vais rebondir là-dessus.
Oui.
Reprenons les travaux du grand anthropologue Levi Strauss. Vous savez, lorsqu'il avait découvert des peuplades au fin fond, je sais plus si c'était de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud, qui étaient encore à l'âge de pierre. Et il arrivait, il s'est dit, je vais pas faire un saut énorme, lui rapporter les gens à la télévision. Il a juste donné quelques outils, genre l'équivalent de l'âge de bronze. Bon. Et donc, ils pouvaient augmenter leur productivité en deux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé deux fois moins. Et donc, ce peuple est resté dans son état primaire. C'est un choix. Je pense que c'est l'inverse. Demain, l'IA, les gens vont pas travailler deux fois moins. Ils vont produire deux fois plus pour pouvoir stocker, vendre davantage, capitaliser. Et en plus, après la crise du Covid, maintenant, on sait qu'il faut avoir de l'avance, etc. Donc, je pense que ça va être justement un renouveau du capitalisme qu'il va falloir, en revanche, orienter de manière plus positive. Je pense au développement durable, parce que l'IA générative, là, dont on parle, elle consomme énormément. Donc, il y a des enjeux de responsabilité. Donc, repenser le capitalisme avec de nouveaux objectifs, mais... qu'on travaille deux fois moins. Je sais qu'en plein débat sur les deux ans de plus pour la retraite, c'est pas très populaire, mais je n'y crois pas trop.
Si on regarde les macro-tendances sur le long terme, l'homme travaille, si on regarde sur plusieurs centaines d'années, il suffit de lire Harari, mais c'est pas le seul à citer les autres, on travaille de moins en moins. Je parle pas de législation de 35 heures, ce qui n'a rien à voir, il faut pas le contraindre absolument. Ce que je dis simplement, c'est qu'on travaille de moins en moins au sens contraignant, c'est la productivité, mais on trouve un sens à ce qu'on fait. Il y a des gens qui travaillent comme une forme d'œuvre d'art qui peuvent être rémunérés en contrepartie. Mais en ce cas-là, on considère plus ça vraiment comme du travail. Il faudrait une autre définition. Ce que je dis, c'est que ça va être de moins en moins contraignant, avec plus de loisirs ou de choix de ce qu'on voudra faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra un autre modèle de société et un business model sociétal.
Il faudra légiférer assez vite, je pense aussi, parce que il faudra qu'on puisse...
On a de plus en plus de mal à suivre avec le législateur. Hein. C'est vrai, on voit aucun rapport, mais avec les influenceurs, etc., ça, la loi, elle arrive des années après le phénomène.
Et là, il faudra qu'il soit très, très réactif, parce qu'à un moment, je pense qu'on va être obligé de pouvoir rapidement identifier une création originale d'un humain, d'une création originale d'une intelligence artificielle, parce que il y aura tellement de dérives, que ce soit dans les fake news. Déjà, on voit les problématiques que ça peut générer actuellement. Si les fake news à l'infini, on peut en avoir.
Oui, oui.
Et on peut spammer massivement avec une intelligence artificielle. Donc, très vite, il faudra quand même.
Et donc, ferme de contenu. Il y a ce qu'on appelle le principe des fermes de contenu qui produisent beaucoup de contenu de manière automatique. Là, ça va exploser avec les fake news et ça va poser des problèmes d'un point de vue démocratique, comme on commence déjà à le connaître. C'est pour ça que la régulation est clé. Mais c'est maintenant que ça joue. Hein. Mmh. Aujourd'hui est en discussion à la Commission européenne l'AI Act, donc le grand règlement européen qui va encadrer l'intelligence artificielle. Et il y a une pyramide des risques, ce qu'on appelle. Et aujourd'hui, il y a les risques très élevés, inacceptables, etc., les risques minimes. Et se trouve aujourd'hui qualifié, tout ce qui est chatbot, risque acceptable. Alors que ça devrait être monté d'un cran à risque élevé pour justement d'être davantage encadré, ça c'est certain.
Bah après, c'est comme les éco-scores, le frigo ABCDE, il est A en 2010 et puis il devient F 10 ans plus tard. Donc on revoit aussi les lois. J'aimerais quand même qu'on se ressente sur l'intelligence artificielle au travail, parce que c'est quand même le principe de cette émission. Question que je vous adresse à tous les trois, est-ce que justement l'intelligence artificielle c'est Happy Boulot compatible ou au contraire il va falloir s'en méfier?
Ça peut Ludovic globalement Jaffray, retirer beaucoup de tâches répétitives, même pour les développeurs. Hein, mais ça peut.
Je vois Stéphane Mallard qui fait
retirer
non.
beaucoup Alors, de tâches répétitives.
Est-ce qu'on va réussir à se mettre d'accord?
Donc ça peut rendre le travail, quand on utilise bien un moteur d'intelligence artificielle, ça peut rendre son travail plus agréable et plus épanouissant.
Ouais, ça c'est la première étape, disons.
Les tâches répétitives, chiantes entre guillemets, ça c'était l'informatique sans intelligence artificielle. Là justement, la nouveauté, c'est qu'on va aller sur du non répétitif, du créatif, de l'inventif, du complexe, de l'intuitif, etc.
Ouais. C'est ça le. Aller transformer un programme de C++ en Python, enfin ça intéresse aucun développeur.
Pas besoin d'IA pour ça. Il y a des boîtes qui faisaient ça sans IA, très très bien. Non, l'enjeu pour en conclure, fait, ouais. Effectivement, c'est d'aller sur c'est de la très haute valeur ajoutée qui va être fait par des algos, parce qu'il y a un sujet fondamental à comprendre derrière tout ça, qui est classique lorsqu'on regarde l'histoire de l'économie, c'est que toutes les technologies commoditisent, c'est-à-dire transforment en commodité, en quelque chose de pas cher, d'accessible, de facile, tout ce qu'elles créent, dont l'intelligence, qui sera une commodité et donc non différenciante, puisque tout le monde va l'utiliser partout.
Et Arnaud Ponce, le mot de la fin sera pour vous. Alors, c'est compatible avec le bien-être aussi au travail, le développement de la vie de travail.
Dans la dimension automatisation, etc., ça va simplifier la vie de chacun. En revanche, je pense qu'il faut se poser des questions qui sont plus philosophiques. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est quoi l'intelligence demain? C'est quoi ça le plaisir ça, de la sérendipité, de la découverte, de l'ingéniosité, de rencontrer les choses, de venir au sujet par la découverte, par la lecture. Tout ça va être de plus en plus rare quand les choses vont venir à nous directement. C'est ça ce qui m'inquiète pour la nouvelle génération.
Et compter sur l'intelligence humaine.
Et la curiosité.
Et la curiosité.
Est-ce qu'elle existe vraiment? C'est ça la question. On va peut-être se rendre compte que finalement, elle est assez banale, l'intelligence humaine.
On va peut-être dire que oui, parce que sinon, cette émission est déprimante. Bon, merci beaucoup, messieurs, d'être venus parler de tout ça. C'est passionnant. Arnaud Ponce, directeur général de la Digital New Deal Foundation. Ludovic Jaffray, directeur général de Linkéo. Stéphane Mallard, conférencier spécialiste des nouvelles technologies. Je rappelle, Stéphane, que vous êtes auteur de Disruption.
BFM Business, Happy Boulot, le MAG. Le Labo RH.
Et focus dans les minutes qui nous restent sur le dialogue social en entreprise et la manière dont on l'adapte aux nouvelles habitudes de travail. Et c'est vous qui venez nous en parler, Aymar Leclerc. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Avec plaisir, vous êtes directeur général de Délégation, solution de suivi des heures de délégation pour les entreprises. Autrement dit, vous aidez les différents acteurs, managers, élus, RH, à agir de manière plus moderne dans le dialogue social en entreprise.
Tout à fait. On a mis en place une solution qui permet de suivre et de digitaliser les différentes heures de délégation dans le cadre des entreprises et des organisations. Les différentes heures qui sont des heures liées aux élus, aux différents mandats qu'ils peuvent avoir. Et l'idée, c'est d'avoir un outil qui permet de suivre ces différentes heures et d'intégrer toutes les parties prenantes, que ce soit manager, RH, admin et les différents élus eux-mêmes. Ils peuvent avoir accès à un compteur qui leur permet du coup d'avoir accès à leurs différentes heures en temps réel, en fonction du dialogue social et de l'activité qu'ils peuvent générer au par ailleurs.
Donc ça, directement, depuis quoi? Une application, un site sur leur téléphone?
Alors c'est effectivement sous la forme d'un site et aussi sous la forme d'une application, puisque les élus, forcément, on a des élus qui travaillent dans les secteurs industriels, qui n'ont pas toujours accès à des appareils numériques. Et du coup, l'enjeu, c'est effectivement que ce soit le plus simple possible, le plus intuitif possible, et que cet outil, il permette de poser en temps réel, quand on en a besoin, en fonction de l'activité du dialogue social, les heures dont on a besoin.
De faire gagner aussi du temps, parce que c'est ça l'enjeu. Alors on sait que le numérique, ça, normalement, c'est censé pas nous faire perdre du temps, même si des fois, on passe beaucoup de temps sur une boîte mail, enfin voilà. Mais l'objectif, c'est ça aussi, c'est d'aller plus vite à l'essentiel, d'être plus rapide.
Exactement. En fait, l'idée, c'est de diminuer toute la partie du temps, gestion administrative, reporting, alerte et toutes les différentes notifications dans le cadre du dialogue social, pour pouvoir se concentrer sur la conversation utile et du coup, in fine, rendre au dialogue social sa notion la plus noble possible, qui est vraiment sa fonction de dialogue au sein des organisations.
Conserver un lien aussi entre les différentes fonctions dans l'entreprise. Je pense naturellement à la crise sanitaire, au développement du télétravail qui en a découlé, où on a peut-être du mal à se coordonner avec la distance. Cet outil, il permet de recréer ces liens qui parfois ont été un petit peu distendus.
Exactement. Cet outil, il a vraiment pour cette focalisation de centraliser l'ensemble des règles du jeu, quelque part, du dialogue social, pour qu'il soit le plus simple possible et que tout le monde, et qu'il soit vécu dans vraiment une notion de transparence pour les différentes parties prenantes. Ouais. L'enjeu, il est du coup vraiment de moderniser ces relations sociales, et à partir du moment où l'outil permet cette transparence, cette information qui est claire pour tout le monde, et ben du coup, ça permet effectivement de le faire évoluer vers plus de virtualité et un dialogue social qui est plus apaisé.
Et vous adressez à tout Londres, aussi bien la PME que l'entreprise du CAC 40.
On accompagne différents secteurs, des entreprises du CAC 40, Bouygues, Randstad, ouais. Groupama, et effectivement des organisations qui sont plus petites et qui ont pour autant tout autant besoin effectivement de ce suivi des heures de délégation.
Merci beaucoup, Aymar Leclerc, d'être venu nous présenter cette solution, directeur général de Délégatio, avec nous dans Happy Boulot. Voilà, c'est tout pour Merci. Aujourd'hui. Vous retrouvez cette émission naturellement en replay, en podcast. Et puis, cette émission, eh bien, c'est la vôtre. Si un sujet vous intéresse en particulier, vous nous écrivez bien sûr une seule adresse pour ça, avec vous, @bfmbusiness.fr. Et d'ici là, on vous souhaite bien sûr d'être très heureux au boulot.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.